Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Géopolitique depuis Séoul, où se tenait cette semaine la 7e édition de la World Policy Conference, une rencontre qui a réuni durant 3 jours de nombreuses personnalités asiatiques, européennes, du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Amérique, dans un esprit de quête d'une gouvernance favorable à un monde raisonnablement ouvert, équilibré et respectueux des identités, donc des différences, selon l'esprit même de cette conférence. Pour cette 2e édition du week-end consacrée à la Corée dans son environnement régional, la place de Séoul dans le monde et la relation entre les deux Corées. Nous allons parler plus particulièrement de la relation intercoréenne que nous avons déjà évoquée dans la première émission de samedi, et de ce qu'elle implique en termes géopolitiques depuis le début des années 90 et plus encore depuis l'explosion nucléaire de 2006. La République populaire et démocratique de Corée, plus simplement appelée la Corée du Nord, apparaît comme un problème international majeur et un défi lancé à la région sur fond de programmes nucléaires militaires et de tirs de missiles, dans l'obsession permanente d'une hypothétique attaque américaine. Nos invités, ils sont 3. Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, bonjour.
Bonjour.
Ambassadeur Choi, professeur à l'université Yonsei à Séoul, ancien ambassadeur de Corée aux États-Unis et ancien chef de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, bonjour.
Bonjour.
Et professeur Yu, rédacteur en chef de la revue d'actualité Korea Analysis, publication d'Asia Centre, bonjour.
Bonjour.
La ligne suivie par Madame Park, présidente de Corée depuis son arrivée au pouvoir en février 2013, est celle de la patience stratégique à l'égard de la Corée du Nord. Après une autre phase, 1998-2008, qui a été une décennie finalement marquée par la politique dite du rayon de soleil, objectif instaurer un climat de confiance. Qu'est-ce que l'on peut dire des résultats de la politique de Madame Park depuis presque 2 ans au pouvoir, professeur Yu?
Oui, il est tôt de faire un constat de ce que Madame Park a fait en matière de relations intercoréennes, 2 ans et demi, mais on peut déjà dire que son bilan n'est pas du tout positif, parce que depuis son arrivée au pouvoir, les relations intercoréennes n'ont pas eu de moment de développement, parce que c'est une relation bilatérale. Les deux côtés sont responsables à ce résultat plutôt minime, mais surtout en tant que sud-coréen, je parlerai de la politique sud-coréenne vis-à-vis de Corée du Nord. Madame Park, comme vous venez de dire, c'est patience stratégique, et en même temps elle a préconiser et diplomatie de confiance. C'est-à-dire, le gouvernement de Madame Park demande à Pyongyang de faire preuve d'une certaine responsabilité sur laquelle on peut baser peut construire une confiance. Mais comme vous savez très bien, le régime de Pyongyang est un des régimes les plus intransigeants du monde. Tout leur politique est basée sur un calcul propagandiste, etc., etc. Donc, je crois pas que Pyongyang n'aura pas changé tant que Pyongyang obtiendrait quelque chose de tangible, plutôt en finance ou quelque chose de lucratif, je pourrais dire. Donc, sans donner à Pyongyang ce qu'ils veulent le plus, et demande à Pyongyang de changer l'attitude, ça c'est trop idéaliste à mon avis.
Ambassadeur Choi.
Sur la politique du rayon de soleil.
Oui.
Je suis d'accord que ça n'a pas produit grand-chose, mais cela a été utile dans la mesure où on a compris la nature du régime nord-coréen. Cela veut dire qu'elle garde la peur profonde à l'égard non seulement de la Corée du Sud, mais toutes les avances qui est de nature d'assister la Corée du Nord de sortir de son isolement et rejoindre le monde entier. Mais la Corée du Nord a peur d'une façon on ne pourrait pas imaginer facilement.
Qui a peur, ambassadeur Chun?
Le régime de Pyongyang. Donc, pourquoi le politique du rayon du soleil n'a pas produit grand-chose? Puisque à cause de la peur que Pyongyang maintient à l'égard de toutes les propositions, toutes les avances extérieures, puisqu'elle les regarde comme les chevaux de Troie.
Françoise Nicolas.
La politique du rayon de soleil n'avait pas produit grand-chose, effectivement, et je ne suis pas sûr que la politique de confiance qui est lancée par Mme Park donne non plus des résultats. Ce qu'on voit pour l'instant, bon, comme le disait le professeur Yu, il est beaucoup trop tôt pour tirer un bilan de cette nouvelle orientation, mais ce que l'on voit, c'est que le régime de Corée du Nord reste aussi imprévisible que par le passé, et qu'il altère toujours provocations et périodes d'accalmie, donc on ne voit pas de changement majeur jusqu'à présent. Bon, est-ce que ça donnerait des résultats d'ici quelques mois? On verra. Mais pour l'instant, on ne voit pas vraiment de changement, me semble-t-il, majeur dans la posture de la Corée du Nord vis-à-vis de sa voisine du Sud.
J'aimerais qu'on parle de la Chine, professeur Yu. Est-ce que c'est la Chine qui a les clés d'une solution avec la Corée du Nord?
Oui, pas une clé. La Chine n'est pas une clé. Mais la Chine, c'est une des puissances uniques qui aurait des influences sur Pyongyang actuellement. Parce que Séoul a lâché son levier en rompant tous les dialogues avec Pyongyang depuis l'attaque sur la corvette et le bombardement sur l'île de Yongpyong. Hein.
C'est cela fait depuis 2010.
Dans le gouvernement de Lee Myung-bak, le précédent gouvernement. Donc, qu'est-ce qui l'a mené, le gouvernement de Lee Myung-bak, comme politique nord-coréenne? C'était politique de pression. Parce que on n'avait pas eu de bons résultats d'après ce gouvernement, 10 ans de rayon de soleil, et non, on n'est pas grand-chose, donc il faut faire la pression. C'est en harmonie, en accord avec Washington. Washington voulait aussi faire pression. Et voilà, bon, 5 ans de politique de pression. N'ont plus donné rien. Donc, les rapports, les dialogues ont été tout rompus, surtout par ce qu'on appelle la mesure du 24 mai 2010, qui bloque tous les échanges, sauf le complexe industriel de Kaesong. Il reste seulement le Kaesong, actuellement. Donc, on est coupé de dialogue, de table de négociation, ça n'existe pas. Oui, de temps en temps, il y a des tentatives, mais tous ont échoué jusqu'à maintenant. Donc, nous avons plus besoin, beaucoup plus avant, de la Chine, le rôle de médiateur de la Chine, mais comme lors de la dernière séance, ambassadeur vous a parlé, la Chine insiste que Pékin traite Pyongyang comme tout à fait comme les autres,
comme n'importe quel autre pays dans le monde.
C'est-à-dire il n'y a pas de lien spécial, c'est-à-dire il n'y a pas de levier puissant que détient la Chine. Mais sauf les Chinois, bon, tout le monde dirait que c'est pas vrai. C'est la même chose que Washington n'a aucune influence sur Séoul. Ce serait la même chose. Les États-Unis et Corée du Sud est devenu beaucoup plus réticent et passif vis-à-vis de Pyongyang, et on demande à la Chine de faire quelque chose pour arrêter les essais nucléaires, etc., etc. Bon, donc une Chine ambiguë, dont la politique est basée sur une ambiguïté, et la demande des autres puissances régionaux à la Chine, je crois que ça ne colle pas. Comment résoudre cette impasse? il faut revenir, que il faut que la Corée du Sud revienne sur la table de négociation, ouvrir des dialogues avec Pyongyang.
Alors on a entendu Madame Park prôner une sorte de politique des petits pas avec la Corée du Nord. Madame Park est donc venue inaugurer cette World Policy Conference à travers des thématiques un petit peu à la marge finalement. Ambassadeur Choi, je me tourne vers vous. Quelle lecture faites-vous de la position de la Chine, en tout cas de la position affichée par la Chine quant à sa relation avec la Corée du Nord?
Quand on considère les rapports entre la Chine et la Corée du Nord ou l'influence que la Chine pourrait exercer sur la Corée du Nord, l'audience française pourrait rappeler le cas de l'Allemagne de l'Est vis-à-vis de l'Union soviétique. Et la comparaison ne se tient pas, ne confronte pas la réalité, dans la mesure où, en cas de l'Allemagne, c'était l'Union soviétique qui retenait la clé pour la réunification. Si l'Union soviétique a dit oui, c'est possible, elle a dit non, c'était pas possible. Mais dans le cas de la Corée du Nord, c'est pas la Chine. Puisque vous serez étonné si vous écoutez qu'il n'y a pas de contact direct entre les militaires chinois et nord-coréens. Aucun contact direct. C'est pas permis. Donc, c'est la Corée du Nord qui retient la clé. C'est pas la Chine. À cause de l'esprit d'indépendance ou, en même temps que la Chine a différents comportements vis-à-vis des pays voisins. Pas l'Union soviétique. C'est la Corée du Nord qui retient la clé. Et cela explique aussi pourquoi Madame Park a déclaré la politique de confiance. C'est pas la même chose que la politique du règne du soleil. Dans la mesure où la politique du règne du soleil, c'était on va essayer, on va donner les assistances massives à la Corée du Nord unilatéralement pour changer ses comportements. Mais ça n'a pas apporté le résultat espéré. Retenant les leçons de cette politique, Mme Park a dit le dialogue, les contacts entre les deux Corées, on est tout à fait d'accord. On va promouvoir toutes les sortes de contacts, de dialogues, dans la mesure où possible. Mais la coopération massive, ça ne serait pas unilatéral. Donc il n'y aurait pas une assistance massive unilatérale. Il faut une réciprocité de la part du régime de Pyongyang. La confiance doit être là pour promouvoir la coopération massive. Cela veut dire, pourquoi cette politique? Parce que la Corée du Nord a peur. Tant que la Corée du Nord aborde la peur de la Corée du Sud, la coopération véritable n'est pas vraiment possible. Donc, petit à petit, Mme Park entend promouvoir la confiance les deux Corées, qui permettrait une coopération massive entre les deux, qui pourrait changer le comportement de la Corée du Nord envers de type de convergence des intérêts.
Françoise Nicolas, je me tourne vers vous. C'est intéressant d'entendre l'ambassadeur Choi dire qu'effectivement, en tout cas, vu d'ici, vu de Séoul, ce n'est pas la Chine qui tient les clés d'une solution à la question de la Corée du Nord, alors que vu de l'extérieur, la vision est différente. En tout cas, c'est intéressant de voir combien les choses sont perçues de manière pas forcément identique.
Bon, généralement, on se fait, à mon avis, des illusions sur la capacité de la Chine à influencer le régime de Pyongyang. Et lorsque vous parlez aux Chinois, et je pense que l'ambassadeur Wu a dû expliquer ça dans l'émission précédente, les Chinois, eux, estiment qu'ils ne détiennent pas du tout la clé. Ils estiment qu'ils n'ont pas une influence aussi grande que ça sur Pyongyang. Et ce sont les observateurs extérieurs qui ont l'impression que la Chine vraiment pèse sur Pyongyang. Et je crois que là, on se trompe un peu. La Chine a peut-être plus d'influence que d'autres pays, mais ça n'est pas elle qui détient la clé de la situation. Ça me paraît assez clair. Alors, si on revient sur la posture de la Corée du Sud vis-à-vis de sa voisine du Nord, je trouve assez intéressant, en tant qu'observateur extérieur, de voir que la Corée du Sud vraiment déploie des trésors d'imagination pour essayer de répondre à cette situation qui est très délicate. On a tout essayé. Donc on a essayé de faire effectivement de l'aide unilatérale, donc d'essayer d'influencer le comportement de la Corée du Nord simplement en fournissant de l'assistance, et c'était toute la logique de la politique Sunshine Policy. Ensuite, si on a constaté que ça ne marchait pas, donc on a voulu être beaucoup plus dur, et ça a été la stratégie de Lim Yong-bak. On se rend compte que ça non plus, ça ne marche pas. Donc là, on invente quelque chose d'autre qui est fondé effectivement sur la réciprocité. Donc il ne peut pas y avoir d'aide s'il n'y a pas une manifestation de bonne volonté du côté du Nord. Donc là, on va voir si ça marche ou pas. Mais si ça ne marche pas, je vois pas ce qu'on va pouvoir inventer encore de nouveau. Parce que là, on aura tout essayé. On aura essayé le dur, le beaucoup plus accommodant. Là, on est un peu dans l'entre-deux où il faut qu'il y ait une réponse pour que on continue à donner de l'aide. Alors si ça marche pas, je sais pas ce qu'on peut inventer.
Ambassadeur Choi.
Concernant l'influence que la Chine possède sur la Corée du Nord, la meilleure façon de qualifier, c'est ceci. L'influence de la Chine est plus grande qu'elle dit qu'elle a.
Oui.
Mais moins qu'on pense qu'elle a.
Ouais.
C'est ça la réalité de l'influence. Ceci dit, pourquoi cette réalité? Puisque la Corée du Nord, au fond, a deux options, deux alternatives pour survivre, pour l'avenir. L'option soviétique, l'option chinoise. Mais tout ce qu'elle fait maintenant, Pyongyang, le régime Pyongyang, c'est l'option soviétique, malheureusement.
Option russe.
Soviétique. L'Union soviétique. Elle néglige la vie quotidienne de population tout à fait. Et dépense toutes les ressources nationales aux armements, y compris les engins nucléaires. C'est exactement l'Union soviétique qui a fait. La Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a changé cette politique avec Deng Xiaoping et changé les motifs principaux de militarisation à la vie quotidienne de la population, économique, croissance économique. Donc si Pyongyang a fait on dit que c'est ce choix stratégique. Si jamais Pyongyang a fait cette choix stratégique, tout le monde l'aidera, est d'accord. Mais cette choix ne peut pas être forcé sur Pyongyang. Ce choix doit être fait par Pyongyang lui-même. Mais on ne voit pas encore le choix. Mais Mme Park, président Park, toute sa politique de confiance vise à aider le Pyongyang de faire cette shop.
Oui, mais c'est déjà ce qui avait été essayé avec la Sunshine Policy. L'idée, par l'assistance qui était apportée, notamment à travers le complexe de Kaesong, c'était justement d'essayer d'infléchir l'orientation de la politique économique de la Corée du Nord et de l'engager sur la voie chinoise, en quelque sorte. Et donc l'idée, c'était une modification de l'intérieur, en introduisant notamment des investissements directs étrangers, et qui aurait modifié le fonctionnement interne de l'économie de Corée du Nord. Bon, ça n'a pas marché, mais c'est toujours l'objectif. Donc là, on essaie d'utiliser un autre levier, mais toujours pour pousser Pyongyang dans la direction, vers la voie chinoise, en quelque sorte. Alors, est-ce que ça va mieux marcher cette fois-ci? Ça, on verra.
Alors, il nous reste peu de temps pour terminer cette première partie. Professeur Yu, il y a aussi un autre acteur, c'est la Russie. Présente aujourd'hui, en tout cas dans le jeu de la Corée du Nord.
Oui, la Russie est revenue, mais à mon avis, elle est encore éloignée du jeu qui entoure la péninsule coréenne. Hein. Plutôt, je voudrais, si vous permettez, revenir...
Rapidement, peut-être,
oui,
ou alors...
Oui, justement, et heureusement, j'ai le journal d'hier, un des très hauts placés dans la politique de sécurité nationale et diplomatie a dit à la presse, on va prendre les premiers petits pas. À commencer par le pourparlers pour revenir sur les retrouvailles familiales. Et ainsi de suite, il envisage annulation de mesures de 24 mai 2010 qui bloquent tout.
Tout pour parler entre Pyongyang et Séoul. Géopolitique, nous retrouvons nos invités, ambassadeur Choi, Françoise Nicolas et professeur Yu dans quelques instants. À tout de suite.
Mémoire d'un continent. Géopolitique. Marie-France Chatin.
Géopolitique depuis Séoul, le regard sur la relation intercoréenne et l'impact géopolitique de la nucléarisation de la Corée du Nord dans la région. Une réunification de la péninsule coréenne est-elle possible? Est-ce un projet partagé par le Nord et le Sud? Nous retrouvons nos invités, ambassadeur Choi, professeur à l'université Yonsei à Séoul, ancien ambassadeur de Corée aux États-Unis et ancien chef de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, professeur Yu, rédacteur en chef de la revue d'actualité Korea Analysis, publication d'Asia Centre, et Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Ambassadeur Choi, la Corée du Nord, la nucléarisation de la Corée du Nord, ce qu'on constate, c'est que la Chine, les États-Unis et la Corée du Sud, finalement, sont assez en désaccord sur les moyens à mettre en œuvre pour la dénucléarisation de la Corée du Nord.
Merci d'abord de cette question cruciale pour la paix et sécurité de la péninsule coréenne, mais aussi pour l'Asie de l'Est tout entière. Si on pense à la question de cette nucléaire de la Corée du Nord, il faut absolument réfléchir sur deux points essentiels. Premièrement, est-ce que cette question nucléaire est une question tout seule ou c'est lié d'une façon irrévocable avec le régime de Pyongyang? Nous pouvons avoir des idées que ça pourrait être réglé tout seul, pas tout seul, mais d'une comment ici isolé. Mais plus nombre d'experts sont maintenant d'accord que ce n'est pas une question isolée, c'est une question liée avec la question du régime, de survie de la Corée du Nord.
Une question elle-même. D'identité, c'est cela que vous nous dites, ambassadeur Choi. Ça fait partie de l'identité de la Corée du Nord.
Voilà, survie de la régime. Donc, si on suit les opinions de plus en plus nombreux d'experts, il faut tenir compte des deux questions en même temps. Cela veut dire, sans la solution de la question du régime de Corée du Nord, on ne pourrait pas avoir la solution de la question nucléaire. Vous comprenez bien l'essentiel de ce point. Deuxièmement, dans ce cas-là, qui pourrait aborder ces questions? Cela devient vraiment compliqué puisque la Corée du Sud, par exemple, est prête à aborder cette question. Investir une moyenne de financière importante. Mais la Corée du Nord refuse de parler avec la Corée du Sud. La Chine pourrait être aussi engagée, mais la Corée du Nord dit non, pas avec la Chine. Je ne parlerai que avec les États-Unis. C'est la position jusqu'à maintenant de Pyongyang. Mais les États-Unis avaient fait 3 accords avec Pyongyang. L'accord de Genève et l'accord de le parti, pour parler de 6 partis, l'accord de Lipte Agreement, on parle, c'est le 29 février 2011. Mais tous les 3 accords ont échoué. Donc il y a une désillusion à Washington qui est partagée par tout le monde. Donc les États-Unis ne veulent plus engager dans un pourparler nucléaire avec la Corée du Nord tant que Pyongyang parle que je suis prêt, en principe, de séparer la question nucléaire avec la question du régime. Cela veut dire que c'est négociable, mais on ne croit pas. Cela explique que la question n'avance pas, puisque la Corée du Nord refuse de parler avec les pays qui sont prêts, et elle est prête à parler avec un seul pays qui n'a plus l'envie d'engager avec la Corée du Nord. Donc comment résoudre cette question? Et la Chine revient encore, puisque on était à peu près d'accord à l'édition d'hier que la Chine a plus d'influence, peut-être qu'on imagine qu'elle parle qu'elle a. Mais la Chine a une influence cruciale pour la survie de la régime, du régime. Cela veut dire que la Chine accorde chaque année une quantité importante de pétrole et les grains. Nourriture et combustible. Donc, sans cette assistance annuelle, le régime ne pourrait pas survivre. Donc, la Chine, quand même, retient un moyen important d'exercer sur la question nucléaire. C'est pour cela que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon parlent à la Chine. Utilisez ce moyen au moins, c'est dans votre intérêt. Donc, dites à la Corée du Nord clairement que vous ne pouvez pas continuer et l'avance des programmes nucléaires. Au moins, on parle à Pékin, dites clairement à Pyongyang, plus des essais nucléaires. J'espère que l'ambassadeur Wu serait là encore pour demander directement.
Ancien ambassadeur de Chine en France, qui était là dans notre émission d'hier.
Oui, et on sent que la Chine est en train d'évoluer sur cette voie, puisque Pékin réalise de plus en plus que le problème nucléaire de la Corée du Nord est une menace directe pour sa sécurité même également. Donc on voit le changement imperceptible mais important de la Chine à cet égard.
Donc des effets géopolitiques évidents. On a beaucoup parlé et on parle beaucoup encore du nucléaire iranien. Est-ce qu'on peut imaginer Pyongyang être très attentif sur ce qui se passe dans les négociations entre...
Donc de parler encore, mais il n'y a pas de comparaison dans la mesure où, sur l'Iran, on a les leviers. Le pétrole, c'est un arme à double tranchant. Donc si on fait sanction sur le pétrole, l'Iran a l'intérêt de négocier avec l'extérieur. La Chine, la Corée du Nord est tout à fait isolée. Et son économie, c'est l'autarchique. Donc, il n'y a pas de levier pour l'extérieur. Donc, la Corée du Nord, tant qu'elle lie cette question avec le survie de leur régime, on n'a pas vraiment le levier exercé sur le régime, sauf la Chine.
Alors, on a évoqué, professeur Yu, je me tourne vers vous, ou en tout cas, il y a eu un débat en Corée du Sud sur une possible nucléarisation de la Corée du Sud pour venir contrebalancer le poids de la Corée du Nord dans ce domaine. Où est-ce qu'il en est, ce débat, aujourd'hui, professeur Yu?
Je dirais que c'est plutôt un débat imaginaire avec des suppositions non basées, parce que dès le début, Séoul nucléarisé, qui accepterait ça? Et comme je vous ai dit, on est allié militaire des États-Unis.
Mais justement, il y a une certaine inquiétude en Corée du Sud quant à ce parapluie nucléaire américain. On se dit que peut-être il ne va pas durer éternellement, professeur Yu.
Mais ce ne serait pas dans un moyen et court terme. Donc on a encore le temps sans nucléariser, on peut attendre la fin du nucléaire nord-coréen. Hein. Et ce problème-là, ambassadeur Choi a justement marqué que c'est pour Pyongyang une question de vie ou mort. Donc il demande aux États-Unis, leur principal interlocuteur préféré sur la question nucléaire, Pyongyang demande à Washington lever de toutes les sanctions, reconnaissance du régime et blocus annulé. Mais il y a le problème. Qui va tirer le premier? C'est-à-dire, est-ce que Pyongyang doit dénucléariser d'abord pour que leur demande soit satisfaite ou vice-versa? Donc ça, une sorte de dialogue des sourdes. Donc, je voudrais revenir à l'époque de Rayon de Soleil, politique de Rayon de Soleil, surtout deuxième étape, c'est-à-dire pendant le gouvernement de Nguyễn Minh Khai.
Donc on est là dans les au début des années 2000.
Oui, oui, 2005, comme ça. Bon, le Rayon de Soleil a existé déjà 2-3 ans, depuis 2-3 ans, et Nguyễn Minh Khai au pouvoir, il voulait un peu plus structurer la politique nord-coréenne. En séparant la question nucléaire confiée aux États-Unis et le développement des échanges intercoréens dont l'initiative revient à Séoul. Donc on a appelé ça à une politique de deux voies, deux traits. Two-track politique, et on a laissé la question nucléaire à Washington et on a essayé de développer, et voilà. Bon, le résultat, tout le monde le sait, mais quand même, dans cette structuration de politique nord-coréenne, je pourrais donner des raisons. Tant que Pyongyang sort dans le cadre de pourparlers à 6, Pyongyang n'accepte pas que la Corée entre dans le débat sur le problème des nucléarisations. Et donc, en développement, les échanges intercoréens, qu'est-ce qu'on a visé? C'était une sorte d'état de paix, structure de paix développée. Et voilà, bon, la question fondamentale du régime de Pyongyang, c'est les États-Unis qui s'arrangeront avec aide d'accord de la Chine, et Séoul s'occupe des relations intercoréennes, hein, qui aboutira.
Une répartition des rôles, c'est cela que vous nous dites,
qui aboutira à long terme à une certaine réunification.
Françoise Nicolas, un commentaire, et finalement j'en viens à la question d'après, c'est quelle priorité pour la Corée du Sud ? Réunification de la péninsule coréenne ou bien la question du nucléaire nord-coréen, si tant est qu'il y ait une hiérarchie dans ces priorités ? Françoise Nicolas.
Je ne sais pas s'il y a une hiérarchie dans les priorités, je ne suis certainement pas la mieux placée pour juger des priorités de la Corée du Sud, mais sur la question de la réunification et de la vision de la réunification par la Corée du Sud, moi, il me semble qu'il faut faire une distinction entre le court terme et le long terme. Dans le long terme, évidemment, tout le monde a envie d'une réunification, et je pense que c'est vrai du côté de la Corée du Sud, et c'est certainement vrai du côté de la population de Corée du Nord. Donc là, il y a une volonté de voir la péninsule réunifiée un jour. Ça, c'est incontestable. Mais ça, c'est une volonté un peu fantasmée quelque part, et c'est une volonté dans une optique d'assez long terme. Dans une optique de court-moyen terme, je ne suis pas sûr que l'enthousiasme soit aussi fort, en tout cas en Corée du Sud. Mais là, les amis sud-coréens auront certainement leur mot à dire. Bon, il me semble que si on regarde les expériences un peu comparables, et je dis un peu parce qu'elles ne sont pas complètement comparables, notamment l'expérience allemande, ce que l'on sait, c'est que la réunification serait extrêmement coûteuse, douloureuse, compliquée. Et je ne suis pas sûr que la population de Corée du Sud, qui finalement est riche depuis peu de temps, soit prête à revenir un certain nombre d'années en arrière pour simplement obtenir cette réunification fantasmée. Mais ça, c'est la vision de l'observateur extérieur, donc je ne sais pas ce que nos amis sud-coréens ont à dire là-dessus.
Ambassadeur Choi.
On n'a pas beaucoup de temps, donc je voudrais jeter quelques conclusions. Tout d'abord, vous avez posé la question... Entre des nucléations et quelle est la priorité. C'est la même chose. Elles sont liées. Quand des nucléations seront réalisées, la réunification sera réalisée. Peut-être quand la réunification sera réalisée, seulement à ce moment-là, la question de dénucléation sera réalisée. Réfléchissez, c'est une importante conclusion. Deuxième, comment la réunification sera réalisée? Par la guerre, puisque la Corée du Sud doit sacrifier sa prospérité.
Donc c'est unification pas pacifique.
Pacifique. Mais pas dialogue, puisqu'il n'y a pas de précédent dans l'histoire. On en parle beaucoup, réunification par dialogue, mais jamais c'est passé dans l'histoire. Donc, la seule voie qui reste, c'est le type d'Allemagne, par défaut, cela veut dire par l'effondrement de la Corée du Nord. Quand ça va se passer, on ne sait pas. C'est aussi difficile que prédire le climat, le temps, au-delà de 2 semaines. Troisième chose, est-ce que la population de la Corée du Sud vraiment souhaite la réunification? Les Français ne comprennent pas. L'Allemagne restait unifiée seulement 71 ans. La Corée, pendant combien de temps? Plus de 1000 ans. C'est une question essentiellement émotionnelle, pas rationnelle. Donc une fois une possibilité de réunification, ça se voit, il y aura une explosion d'émotion de la part de Corée du Sud en faveur de la réunification. Et est-ce que ça sera coûté? Non. Le plus essentiel, quand la réunification est réalisée, c'est que la population qui vieillit très rapidement en Corée du Sud aura une influx de 100, jeunes sang de 25 millions de mandèves nord-coréens, qui est la première qualité du monde.
En tout cas, ce que je comprends depuis 48 heures que je suis à Séoul, c'est combien, mais alors vous allez confirmer ou infirmer, professeur Yu, cette question de la séparation de la Corée du Nord et de la Corée du Sud, c'est quelque chose de très prégnant dans les conversations, dans les médias. On n'en a pas forcément conscience lorsqu'on est en Europe.
Oui, mais on en parle comme d'autres soucis de la vie. Hein. Ça fait partie de notre vie quotidienne. On n'est pas permis de sortir de ce sujet-là. Hein. Tout est lié à cette séparation. Donc, il faut faire quelque chose pour que la division ne donne pas trop de dégâts. Par exemple, des bombardements et des montées de tensions, tout ça est très nuisible à l'économie et tout. Bon, en ce qui concerne l'opinion publique pour la réunification, comme ambassadeur Choi vient de dire, c'est émotionnel. Tant qu'il y a l'occasion, il y aura une sorte d'explosion sentimentale pour l'unification. Et côté rationnel de l'unification, Korean Institute of National Unification a mené une étude empirique avec la méthode de simulation. La réunification ne coûtera pas autant. Dans les premières années, oui, ça coûte beaucoup, mais petit à petit, il y aurait la rentabilité qui dépasserait finalement le coût de réunification.
Et pourtant, le différentiel de niveau de vie entre la Corée du Sud et la Corée du Nord est largement supérieur au différentiel de niveau de vie qui a existé, Françoise Nicolas, entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est.
Là, à nouveau, ça dépend de l'échelle de temps que l'on envisage. Sur le coup, ça sera très coûteux, très compliqué. Mais très rapidement, et là je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Choi tout à l'heure, ça sera extrêmement rentable. Parce que c'est vrai que du point de vue démographique, il y a un apport très très positif du côté de la Corée du Nord. Bon, est-ce que cette population sera facile à intégrer? Ça c'est autre chose. C'est un peu théorique, on a un apport de population, et donc au final la population globale sera plus importante, et sera rajeunie, et c'est très bien. Oui, mais... qu'est-ce que ces gens-là ont dans la tête? Et est-ce que socialement, est-ce que humainement, ils seront faciles à intégrer dans la population? Je ne suis pas si sûr que ça. Donc je serais un peu moins optimiste que vous quand même sur le non-coût de cette réunification. Théoriquement, je comprends parfaitement vos arguments. Dans la réalité, je pense que ça risque d'être un petit peu plus complexe que cela.
Une dernière question, ambassadeur Choi. Un peu compliqué, mais qui va nous éclairer sur ce qui se passe réellement. Dans quelle mesure, finalement, la Corée du Sud est-elle prisonnière du face-à-face avec son voisin du Nord?
Dans la mesure où l'option, le choix de voie soviétique, voie chinoise, c'est dans la main de la Corée du Nord. C'est une ressource d'énorme frustration de notre part. On n'a pas vraiment le levier. Donc, on attend. On attend avec toutes les préparations nécessaires, l'alliance avec les États-Unis, et pour ménager la question nord-coréenne d'une façon pacifique. Donc, vous avez raison, il y a des blocages, des frustrations de la part de la Corée du Sud, puisqu'on n'a pas de levier.
Professeur Yu.
Comme Françoise a dit, il faut... Disons, échelonner les rapports intercoréens, parce que pour le moment, tout est bloqué, donc je suis d'accord pour la presse, conférence de presse de ce diplomate très haut niveau, on va commencer, donc, petit à petit, le dialogue pour aboutir réouverture de circuits, mais en contrepartie, on aurait des résultats positifs, tangibles de la part de Pyongyang. Bon, c'est mon espoir. Alors, à partir de ce premier pas, on va construire une petite structure de paix qui est absolument nécessaire préalablement à une éventuelle réunification de long terme.
Françoise Nicolas, en un mot de conclusion.
Sur la réunification, ce dont on peut être sûr, à mon avis, c'est que la réunification interviendra d'une manière absolument inattendue et imprévisible.
C'est ce qui se passe avec tous les événements.
C'est sûr, c'est toujours comme ça que ça se passe. Donc on sera nécessairement pris de court et pris par surprise.
Merci. C'est la fin de Géopolitique enregistrée à Séoul où se tenait cette semaine la 7e édition de la World Policy Conference. Merci à nos invités, ambassadeur Choi, professeur à l'université Yonsei à Séoul, ancien ambassadeur de Corée aux États-Unis et ancien chef de la mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Françoise Nicolas, directeur du Centre Asie de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et professeur Yu, rédacteur en chef de la revue d'actualité Korea Analysis, une publication d'AsiaSense. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Bertrand Éclair à Séoul, Véronique Durand et Nathalie Laporte à Paris. La semaine prochaine, Géopolitique sera consacrée à la question israélo-palestinienne. À samedi prochain.
Appelez-nous, exprimez-vous.